La voie de la reconnaissance unilatérale par Rome. Autrement dit, nous reconnaître tels que nous sommes, sans contrepartie. La voie de la reconnaissance unilatérale par Rome est désormais fermée. L'entretien du 16 mars a été très clair. Le communiqué que je vous décryptais lors de la dernière conférence le précisait. Rome refuse ce type d'accord. Elle le refuse. Elle estime, le pape estime, qu'il y a des problèmes doctrinaux qui séparent la fraternité sacerdotale de la Rome actuelle. Sans quoi, son analyse est parfaitement juste. Et c'est d'ailleurs en raison de ces problèmes doctrinaux qu'il a modifié le statut de la commission Ecclesia Dei pour la faire dépendre directement de la congrégation pour la doctrine de la foi. Précisément parce que les problèmes sont d'ordre doctrinaux. Et donc, c'est la seule solution pour éviter une nouvelle condamnation de la tradition, semble de revenir à ce fameux préambule doctrinal du 14 septembre, demandé par Rome, pour le modifier autant que faire se peut. Et c'est là que les choses se compliquent. C'est là. La fraternité est-elle en droit d'accepter des concessions dans ce domaine doctrinal? Peut-elle se permettre de signer des déclarations doctrinales faites d'ambiguïté, faites, pour reprendre une expression de Mgr Felet, de zone grise? Les trois évêques ne le pensent pas. Et c'est pourquoi elle supplie Mgr Felet de ne pas faire avec Rome un accord de ce type. Il lui rappelle finalement la ligne de conduite que Mgr Felet avait exprimée en 2006 et que vous trouverez, par exemple, c'était entre autres, dans une interview faite par Mgr Felet et publiée dans la revue Fidélitaire, numéro 171, numéro de mai-juin 2006. Mgr Felet y expose donc les trois temps. Premier temps, l'octroi des préambules. Deuxième temps, les discussions doctrinales. Troisième temps, la résolution canonique. Monsieur l'abbé Cellier, qui interroge Mgr Felet, demande « Et donc si Rome accorde les préalables ?» Réponse de Mgr Felet. « Dans cette atmosphère nouvelle, il conviendra de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire aux discussions. Ici, la grande difficulté sera d'aller au principe même de cette crise, et non simplement de se lamenter sur les conséquences désastreuses de ces principes. Tant qu'on ne touchera pas aux principes, les conséquences continueront inéluctablement. Cette étape-là des discussions sera difficile, houleuse, probablement assez longue. En tout cas, il est impossible, inconcevable, de passer à la troisième étape, donc d'envisager des accords, avant que ces discussions n'aient abouti à éclairer et corriger les principes de la crise. » Monsieur l'abbé Cellier de continuer son interrogation. Est-ce donc à dire que vous attendrez que la crise soit pleinement résolue pour signer des accords? Grand reproche. Non. Nous ne prétendons pas attendre que tout soit réglé sur le terrain, le plus pratique, le plus humain, dans les conséquences ultimes de la crise, dans tous les lieux, chez toutes les personnes. Ce ne serait pas raisonnable. En revanche, il est clair que nous ne signerons pas d'accord si les choses ne sont pas résolues au niveau des principes. C'est pour cela qu'il faut des discussions approfondies. Nous ne pouvons pas nous permettre des ambiguïtés. Le problème de vouloir faire des accords rapidement, c'est que forcément, il serait bâti sur des zones grises et qu'à peine signée la crise ressurgirait violemment de ces zones grises. Il faudra donc, pour résoudre le problème, que les autorités romaines manifestent et expriment de façon nette, en sorte que tout le monde comprenne que pour Rome, il n'y a pas 36 chemins pour sortir de cette crise, qu'il n'y en a même qu'un seul de valable, que l'Église retrouve pleinement sa propre tradition bimillénaire. Du jour où cette conviction sera claire chez les autorités romaines, et même si sur le terrain tout est loin d'être réglé, des accords seront très faciles à réaliser. C'était donc l'optique en 2006, optique qui a été validée, consacrée, pourrait-on dire, par le chapitre général de la fraternité qui s'est tenu donc 2 mois après, en juillet 2006. Le chapitre général, j'y reviendrai dans un instant, et quant au statut d'une congrégation, l'autorité suprême, qui est donc à laquelle est tenu le supérieur général. Et donc effectivement, lors de ce chapitre général de 2006, les choses ont été redites de la même manière. Tout d'abord, d'un point de vue simplement administratif, au cas où un accord avec le Saint-Siège était sérieusement envisagé, un chapitre général extraordinaire serait convoqué pour traiter de la question. Et puis surtout, donc, cette déclaration finale du chapitre, qui était rendue publique, « Si après l'accomplissement des préalables, la fraternité attend la possibilité de discussion doctrinale, c'est encore dans le but de faire résonner plus fortement dans l'Église la voix de la doctrine traditionnelle. En effet, les contacts que la fraternité entretient épisodiquement avec les autorités romaines ont pour seul but de les aider à se réapproprier la tradition que l'Église ne peut renier sans perdre son identité. » Et ces contacts, donc, n'ont pas pour but la recherche d'un avantage pour elle-même ou d'arriver à un impossible accord purement pratique. Le jour où la tradition retrouvera tous ses droits, là le chapitre reprend une expression de Mgr Lefebvre, le problème de la réconciliation n'aura plus de raison d'être et l'Église retrouvera une nouvelle jeunesse. Donc d'où effectivement, si vous voulez, point de divergence entre nos évêques. Peut-on pour autant taxer les évêques de la fraternité qui sont opposés à ce type d'accord de cédévacantisme? C'est évident que non, ce serait absurde, sauf à dire qu'en 2006, Mgr Follet, le chapitre général, toute la fraternité était cédévacantiste. Je vous ai exprimé tout à l'heure, en 2 mots, la différence fondamentale entre le cédévacantisme et la fraternité, qui, elle, reconnaît l'autorité magistérielle propre au pape, aux évêques, même si elle regrette que cette autorité n'ait pas exercée de manière claire, mais de manière confuse par l'introduction de cette notion moderniste du magistère. Cette lettre des évêques est donc datée du samedi saint du 7 avril, donc dans cette période dans laquelle Mgr Follet réfléchit intensément à savoir quelle réponse il va adresser à Rome. Et en ce sens-là, je tiens à dédramatiser, il est complètement normal, à mon sens, que des évêques, que nos supérieurs majeurs, réfléchissent entre eux à ces questions. Il est normal qu'il y ait des opinions divergentes. Il n'y a rien de scandaleux en cela. C'est peut-être justement ces différences de regard qui, devenues complémentaires, peuvent apporter la vraie lumière, la plus précise. Donc on ne se scandalise pas que les évêques ne soient pas d'accord entre eux sur un point précis, sur une attitude à avoir. N'exagérons pas la portée de cette divergence de regard. Ne soyons pas là-dessus de ceux qui transforment des divergences en soi compréhensibles en divisions. Attention, attention. Fait suivant donc, le 17 avril, pile un mois après la rencontre de Mgr Follet avec le cardinal Levada, Rome fait savoir par un communiqué qu'elle a reçu effectivement une nouvelle appréciation de Mgr Follet. Jugée par Rome, je reprends le mot du communiqué, comme encourageante. Mgr Follet, en fait, a adressé à Rome une proposition, je dis bien une proposition, de déclaration doctrinale, rédigée par lui avec ses assistants généraux. Ce texte, nous ne le connaissons pas, ni vous ni moi. Les évêques le connaissent. Sans doute, je suppose, les supérieurs majeurs, ou au moins des supérieurs majeurs, mais pas nous. Avant-hier, donc, la doctrine de la foi examinait ce texte proposé par Mgr Felet, disant d'une part qu'elle avait des observations à faire sur ce texte. Donc la doctrine de la foi, quand elle s'est réunie comme ça, ce sont tous les cardinaux membres de la doctrine de la foi, ce qui représente à peu près une vingtaine de cardinaux et d'archevêques. Parmi eux, Mgr Ricard, cardinal archevêque de Bordeaux, par exemple. Le cardinal Cor, en charge de l'œcuménisme et du dialogue judéo-chrétien, est très loin d'être un conservateur. Voilà. Donc évidemment, il y a des réserves. Bon. Et deuxième chose, ce communiqué disait donc que ces observations seraient exposées à la fraternité dans les prochaines relations entre la fraternité et le Saint-Siège, et d'autre part, que le cas des trois évêques serait examiné séparément et personnellement. Là aussi, sans doute, peut-être, une volonté de diviser qui se manifeste. Bon. Toute la question est que cette déclaration, dont nous ne connaissons pas la teneur, est d'ordre doctrinal. Que sans doute, chaque prêtre de la fraternité devra se prononcer personnellement devant cette déclaration, si le pape l'agrée, en la signant ou en ne la signant pas. Sans doute également, vous serez inéluctablement mené à porter un jugement sur ce texte. Est-il un moyen de pérenniser et d'étendre le bon combat de la foi, ce qui serait fantastique? Est-il, au contraire, un risque de compromettre ce combat de la foi, ce qui serait dramatique? À vous qui voulez transmettre la foi à vos enfants dans des conditions où ça ne se fait pas sans combat. D'où la nécessité d'avoir préalablement en tête, au cas où ce texte était amené à paraître d'ici quelques jours, quelques critères doctrinaux qui seuls permettront de poser un jugement éclairé et non pas passionnel. Quels sont donc les enjeux de ce texte, d'un potentiel accord? Premier enjeu, alors encore une fois, je n'ai pas lu ce texte. J'ai pris trois enjeux principaux qui ressortent de manière récurrente, en public ou dans les échanges officiels qu'on a pu avoir à Rome avec nos interlocuteurs de la doctrine de la foi. Premier enjeu, c'est le code de droit canonique de 1983. Est-ce que nous pouvons ou nous ne pouvons pas reconnaître ce code, pris dans son ensemble, comme la loi universelle de l'Église? Même à supposer que soit accordé, puisque ça a été plus ou moins mentionné, un droit propre à la fraternité. Non. On ne peut pas admettre que le nouveau code, comme tel, est une loi universelle pour l'Église. Pourquoi ? Parce que une loi mauvaise dans l'Église n'a jamais valeur de loi. Or, le nouveau code, l'argument a été en son temps bien exposé par Mgr Lefebvre, le nouveau code a des lois directement mauvaises. Par exemple, l'hospitalité eucharistique. On peut, d'après le nouveau code, donner la communion à un protestant qui le réclamerait, dans la mesure où celui-ci exprime sa foi dans la présence réelle. nouveau code. Loi directement mauvaise. Pour en citer beaucoup comme cela, je ne vais pas vous faire le code droit canonique, c'est qu'un seul exemple, parce que ces lois émanent d'un esprit mauvais, décrit par Jean-Paul de lui-même dans la préface, dans la Constitution apostolique, qui sert de préface à ce nouveau code. Je vous lis un passage de cette Constitution. Cet instrument qu'est le code correspond pleinement à la nature de l'Église, spécialement comme l'a décrit le magistère du Concile Vatican II en général, et en particulier dans son enseignement ecclésiologique. C'est la mise en pratique de toute la nouvelle ecclésiologie erronée de Vatican II. En un certain sens, on pourrait même voir dans ce code un grand effort pour traduire en langage canonique cette doctrine même de l'ecclésiologie conciliaire. Si cependant il n'est pas possible de traduire parfaitement en langage canonique l'image conciliaire de l'Église, le code néanmoins doit être toujours référé à cette même image comme à son exemplaire primordial. Accepter le nouveau code dans son ensemble comme loi de l'Église universelle, c'est accepter la nouvelle ecclésiologie, le substitut in et compagnie, à l'origine du nouvel œcuménisme et de tout cela. Et c'est pourquoi Mgr Lefebvre, en son temps, disait refuser le nouveau code en tant que tel, pris comme un tout, et que on gardait l'ancien code avec les adaptations disciplinaires nécessaires au changement de temps, et donc la prendre du nouveau code. Donc si jamais nous est réclamé la reconnaissance du nouveau code comme loi universelle de l'Église, en conscience, on ne peut pas dire cela. Ça serait dire qu'une loi mauvaise a valeur de loi, ou bien que l'esprit du nouveau code n'est pas mauvais. Par contre, si est proposé un accord pratique basé sur les normes du nouveau droit, ce qui n'est pas la même chose. Il y a un accord pratique, et pour poser cet accord, on utilise les normes canoniques telles qu'exposées dans le nouveau droit. Ça, on peut tout à fait. On reste dans le cadre d'un accord pratique, où, quant aux rapports internes d'un institut religieux, les rapports de cet institut avec les différentes congrégations, eh bien, on va utiliser effectivement les prescriptions du nouveau code dans ce domaine-là. Parce que ce domaine-là, il est purement disciplinaire, hein, pas l'esprit conciliaire de Lumen Gentium ou de Gaudium et Spes, quoi. C'est pas la même chose. Donc là, en soi, si c'est ça qui est demandé, c'est tout à fait possible. Illustration immédiate, une prélature personnelle n'existe pas dans l'Ancien Code. C'est une structure qui est née avec l'Opus Dei et qui a été intégrée dans le nouveau code.